voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Virginie Bloch-Lenné rencontre Raoul Peck. Ce soir, Berlin, la politique et le cinéma.
Raoul Peck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur de documentaires et de fictions politiques. Vous êtes l'auteur notamment de « I am not your Negro », un documentaire sur James Baldwin sorti en 2017 en France. Hier soir, nous avons parlé de l'exil de votre père et finalement de toute votre famille, enfin de votre mère et de vous, vers le Congo belge, à Léopoldville, en 1961, pour fuir la dictature haïtienne. Ce soir, nous parlerons d'autres lieux, d'autres villes dans lesquelles vous avez fait vos études, New York, Orléans et Berlin. À New York, Raoul Peck, la communauté, est-ce qu'il y avait une solidarité entre haïtiens lorsque vous y arrivez, donc vers 12-13 ans
Avant, encore, je crois que 10-11 ans plutôt. En fait, je réponds toujours à cette question, mais sans jamais avoir contrôlé les dates ou autres. C'est vraiment les souvenirs que je vous raconte là. Mais je devais avoir 9-10 ans quand on est revenu aux États-Unis, puisqu'il y avait des troubles au Congo. Donc on a été rapatriés. Et l'ambiance à New York était particulière. Là aussi, voilà, je découvrais l'Amérique, je découvrais New York, je découvrais la télévision américaine. Je me rappelle des films de Hitchcock. Il y avait un film par soir à l'époque, c'était la série télévisée qui me terrorisait, mais en même temps que je regardais... Il y avait la montée du soul à la télévision. Il y avait ces grandes émissions le samedi matin de Soul Train. Et c'était l'époque de Motown, de Jackson 5, de tout ça.
Donc c'est vers 65,
66. Je dirais 60, oui, 63, 64.
D'accord.
65. Je ne sais pas précisément quand. Mais voilà, c'était cette époque-là.
Ça vous plaît?
Oui, bon, c'est bien sûr, puisque j'ai des oncles, j'ai des tantes qui me font sortir, qui m'amènent, je me rappelle, mon premier grand spectacle à Radio City Music Hall, dans un énorme hall de théâtre, enfin qui est très célèbre à New York. Oui, je découvre le cinéma différemment, même si j'avais vu des films en Haïti, puisque Haïti était un pays où il y avait beaucoup de cinéma, tant dans la capitale qu'en province, accessible à toutes les bourses. C'était comme les anciens cinémas en France où voilà, la bourgeoisie du coin avait des sièges réservés et puis il y avait des tickets moins chers pour la population. Et donc en Haïti, il y avait des drive-in aussi, donc on allait souvent en voiture, en pyjama au cinéma. Surtout le week-end. Donc voilà, je continue à découvrir ce cinéma aux États-Unis. À part le drame d'aller à une école publique américaine, donc en anglais, alors que je ne parle pas un mot d'anglais, et ça c'était terrifiant. La première semaine a été terrifiante pour moi puisqu'il fallait trouver un mode de communication.
Et vous le trouvez comment?
Ben, on se débrouille, on est des enfants au final, et puis il y a des gens qui se rapprochent de vous, et donc je me suis très vite fait un petit groupe d'amis, et voilà, et qui m'expliquait un peu les choses et qui m'aidait. Donc ça, au final, ça s'est très bien passé.
Vous habitiez où?
À Brooklyn, dans un quartier, ancien quartier juif, avec de grands appartements, et il y a plusieurs familles qui habitaient dans ces appartements. Donc j'avais plusieurs oncles et tantes qui étaient jeunes, soit qui poursuivaient leurs études aux États-Unis, et donc qui habitaient aussi là. L'appartement appartenait aux frères de ma mère, mais il y avait des tantes, des oncles, des parents qui habitaient aussi dans cet énorme appartement à Brooklyn. Et voilà, c'est un autre apprentissage pour moi, et plutôt heureux, je pense, en même temps avec la terreur, puisque c'est New York, et en particulier Brooklyn, c'est aussi un degré de violence différent que celui que j'ai connu ailleurs. faut pas oublier que quelques années après, des endroits comme la 42e avenue, qui aujourd'hui est un haut lieu touristique, mais c'était un endroit où même les policiers n'osaient pas circuler seuls. New York était quand même une ville assez violente.
Un coupe-gorge.
Certains... Mmh. Ah oui. Harlem, à l'époque, était très très dur. À Brooklyn, ça pouvait être très tendu dans certains quartiers. Donc ça aussi, je le ressentais.
Et l'école, Raoul Peck, elle était comment ?
C'était une très bonne école, même si c'était une école publique, mais à l'époque, les écoles étaient encore de bonne facture, de bonne qualité. Parce qu'au final, c'est quelque chose qui m'ont beaucoup enrichi. Le fait d'avoir été dans des endroits différents, dans des cultures différentes. Et finalement, ce que ça vous donne, c'est une capacité de distanciation et de jugement, de relativisation des choses. Puisque plus vous avez d'exemples, plus votre regard est moins renfermé.
Et aussi donc, moins centré sur...
Sur soi aussi. Oui. Voilà, on se rend compte qu'on n'est pas le centre du monde. Ce qui n'est pas le cas pour un jeune Américain ou un jeune Français qui, sans sortir de son pays... est persuadé qu'il est le centre du monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très vite compris. Et qu'il n'y avait pas qu'un monde, il y avait plusieurs mondes, et il y avait plusieurs perspectives. Et je m'en suis servi aussi dans mon travail de cinéaste. Et dans la description de personnages, ou même dans le choix de mes sujets. Et donc ça, depuis cette époque, ce sont des choses voilà, dont je profite sans le savoir de manière consciente.
Est-ce qu'il y a des choses, Raoul Peck, que vous aimez des États-Unis et est-ce que cette affection, cet attachement dure encore aujourd'hui ?
Je ne dirais pas attachement parce que je me sens pas forcément...
Parce que vous y allez.
Oui, j'y vais régulièrement. Toute ma famille y est encore. J'ai grandi là. Oui. En fait, j'ai grandi en même temps sur tous ces territoires, aussi bien le Congo, les États-Unis et plus tard Haïti et ici en Europe, la France, l'Allemagne. Donc, j'ai toujours vécu dans des allers-retours sur ces territoires. Donc mon rapport avec les États-Unis, il est très simple, c'est-à-dire je me sens quand j'y suis, c'est comme si j'y avais grandi là. Donc je m'adapte très rapidement et je mets mon casque américain si vous voulez et je fonctionne comme un Américain normal. De même que quand je suis en France, je fais pareil, je me remets à l'heure française et tout en gardant justement cette capacité de distance.
Alors, autre ambiance que Brooklyn, Raoul Peck, vous partez à Orléans chez les jésuites pour poursuivre votre scolarité.
Alors, à l'école France. Sainte-Croix, Sainte-Verte, ça doit être 66, 67. Bon, c'est une école française classique, un pensionnat classique avec des prêtres. Même si on est à une période où l'Église catholique est en train d'évoluer, je me rappelle, il y avait aussi bien des prêtres plus âgés en soutane, et il y avait ces jeunes prêtres en costume noir, très modernes.
Vatican II a eu lieu.
Pardon ?
Vatican II est passé
voilà,
par là.
Voilà. Oui. Donc il y avait ce mélange-là. Et nous, on était aussi également entre les deux. J'avais une réputation de rebelle. Je me rappelle qu'on me menaçait régulièrement le père supérieur qui m'amenait dans son bureau pour me dire que Monsieur Peck ne pensait pas que c'est parce que vos parents sont au Congo qu'on peut pas vous rapatrier au Congo, puisque j'avais un statut un peu spécial, c'est-à-dire je pouvais me permettre de faire des choses que mes camarades pouvaient pas. Donc j'étais celui qu'on envoyait en tête de foule.
Vous l'autorisiez ou...
Oui, parce que j'étais un peu... C'était une manière, je pense, de me débarrasser de ma frustration, d'être loin de mes parents. C'était une manière de les faire payer, quelque part. J'avais des notes correctes, mais je ne me foulais pas beaucoup. En même temps, j'avais... et c'est là aussi, je pense, que cette formation jésuitique est assez efficace. En même temps, il pouvait être très sévère avec moi, mais en même temps, j'avais l'impression d'avoir un rapport intellectuel sain. Avec, y avait, par exemple, la règle de chaque fin de journée. Donc, on allait en étude après le goûter. On allait en étude, donc pour faire nos devoirs, pour lire, pour etc. Et on pouvait faire passer un billet au surveillant pour aller rencontrer son, alors on disait confesseur ou, mais on pouvait demander à aller rencontrer, à aller parler avec quelqu'un. Donc, et ça pouvait être aussi bien un professeur que un prêtre. Et c'était des moments privilégiés. Moi, je me rappelle de belles conversations avec mon professeur d'anglais, qui était un anglais d'ailleurs, et poète. Et lui, il m'intéressait particulièrement parce qu'il était différent des autres. Et il y avait des prêtres aussi parmi eux qui étaient, voilà, des gens plutôt évolués, plutôt pas conservateurs, voilà.
Oui, plutôt voilà. Ouverts sur le monde laïque.
Voilà, et je me rappelle comme on sentait un peu cette obligation de temps en temps de se confesser également, parce que c'était ça l'idée au départ, c'était d'aller à la confession. Donc, au fur et à mesure, on savait qui était qui. Moi, je me rappelle très bien, le prêtre vers lequel j'allais pour me confesser, c'était celui qui avait la soutane, qui était plus vieux. Bon, je lui balançais mes quelques péchés que j'avais répertoriés, qui étaient, si possible, pas trop graves, mais suffisamment crédibles pour passer. J'étais pas très croyant, très vite, déjà en Haïti, même si j'osais pas le dire.
Parce que vos parents l'étaient.
Oui, mes parents sont catholiques, étaient catholiques, et j'ai grandi dans un milieu catholique, et j'ai toujours été dans des écoles catholiques. Mais j'avais appris à me méfier de la structure de l'Église, de l'institution catholique. Et donc, voilà, j'avais trouvé un modus vivendi qui me permettait, voilà, de survivre sans trop avoir d'ennuis, mais en même temps de me développer comme je le voulais.
Vous étiez particulièrement intéressé par le cinéma, Raoul Peck, adolescent?
Non, pas précisément. Je faisais des photos parce que mon père faisait des photos. Il avait des appareils photographiques, il a eu ensuite des appareils de Super 8, etc. Il passait au Congo, il passait ses films, parfois sur ses projets, sur les vacances de famille, voilà, comme toute famille bourgeoise de l'époque. Donc pour moi, ça faisait partie des choses qu'on faisait. Donc j'ai grandi un peu avec tout ça, sans jamais penser que ça pouvait être une profession. Ceci est venu beaucoup plus tard. Mais je me suis toujours, dès l'âge de 12 ans, j'ai toujours utilisé ces appareils. Et mon père me laissait les utiliser. Donc je pense qu'il y avait quelque part une sorte de complicité. Peut-être que lui, il avait vu mon intérêt.
Oui, pour l'image.
Ça, pour l'image, oui. Voilà. Et par contre, je sais que à cette époque-là, j'ai développé mes envies d'écriture. Je me suis rendu compte que par l'écriture, on pouvait dire quelque chose, on pouvait parler de ce qu'on avait à l'intérieur. Ça a été un moment assez particulier pour moi d'être confronté avec cette réalité. Je crois que c'est je sais plus quel sujet c'était, d'une rédaction où j'ai été quelque part très sincère et la rédaction a été lue dans la classe. Et ça a été, je me rappelle, en cours de récréation après, j'étais seul et je riais de ça. Je dis, tiens, c'est bizarre cette histoire, c'est marrant que ça ait
ça marche
pu avoir,
bien,
voilà,
ça.
Que voilà, il y a quelque chose, voilà, que, sans savoir ce que c'était, ce que ça voulait dire, mais c'était très agréable. C'est comme si je découvrais une identité. Et ça, à partir de ce moment-là, l'écriture est devenue... D'ailleurs, j'écrivais beaucoup entre mes parents, mes amis, ma petite amie. On s'écrivait beaucoup. À l'époque, voilà, chacun avait, je me rappelle, dans son casier, toujours un paquet de feuilles et d'enveloppes. Et on choisissait ces enveloppes et ces... Quand on allait à la papeterie, c'était vraiment... Il y avait toutes sortes de couleurs, de genres, de stylos, Et à l'époque, oui, c'était avant les emails, les SMS, etc. Donc,
Vous lisiez beaucoup aussi, ouais, Raoul Peck.
Ouais. Bon, d'une manière générale, dans cette école, chacun avait un livre dans sa poche. Mais je pense que c'était comme ça en France à l'époque. On lisait beaucoup. On avait.
Vous pensez pas que c'est propre à une institution jésuite, enfin.
Alors peut-être que c'est propre à une école privée, oui. Mais c'était normal, presque une obligation, de toujours avoir un livre. Donc, dès qu'on avait un moment en récré, c'était soit on jouait au foot dans la cour, ou on s'assied dans un coin pour lire, ou on jouait aux cartes. Mais c'était vraiment... la lecture, c'était l'une des activités, surtout quand on voulait être très seul, on voulait pas s'embêter avec les autres. Donc, voilà, c'était quelque chose de totalement... naturel.
Alors, vous faites d'abord à l'UPEC des études d'économie?
D'abord, quand l'année en première déjà, et peut-être même en seconde, je me rends compte d'une chose, c'est que je ne suis pas sûr de ma place en France. De ma place, pas que je voulais rester vivre en France, mais même pour poursuivre mes études. Je me suis rendu compte que mes amis savaient presque exactement ce qu'ils voulaient faire, dans quelle école ils voulaient aller. Et moi, j'avais pas ces références. Moi, j'avais une référence plus large, qui était l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, mais pas forcément la France. Et là, il y a un phénomène que j'ai compris, là encore, sans pouvoir mettre les mots dessus, c'est qu'il y avait déjà des choix de classe. Parmi mes camarades, j'avais l'un de mes meilleurs amis était fils de général, un autre était fils d'ouvrier, un troisième était fils de facteur, etc. Et je m'apercevais que leur rêve concordait, correspondait à ce que...
Au milieu dont ils étaient issus.
Donc, le fils du général est devenu médecin, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait soit faire une grande école mine, etc., ou devenir médecin. Il est devenu médecin, il est au Canada aujourd'hui. J'ai encore des relations avec 5 d'entre eux. Ouais. Et ça s'est passé exactement. C'est vraiment la caricature des thèses de Bourdieu, quoi. C'est tout le monde, chacun d'entre eux, s'est retrouvé à sa place, avec quelques exceptions. L'un de mes meilleurs amis, qui lui était fils d'ouvrier, mais son ambition au départ, c'était d'arriver à rentrer au Crédit Agricole. Ce qu'il a fait, je crois qu'il est rentré comme stagiaire après son bac, etc. Sauf que lui, il a fini par faire une grande carrière, puisqu'il est devenu le chef de Crédit Agricole dans tout le Loiret. D'accord. Mais il n'a jamais quitté ni sa région, ni sa ville. Donc, là encore, c'est une belle réussite, mais en même temps, voilà, en restant dans les catégories de départ.
Mais alors vous, Raoul Peck, fils de la bourgeoisie haïtienne exilée au Congo...
Ben oui, pour moi c'était clair.
Quel est le trajet?
D'ailleurs, on me le disait, tous mes camarades, ah ben toi tu seras ambassadeur. Et comme moi je me rendais compte que en aucun cas je pouvais devenir ambassadeur d'une dictature, donc ça veut dire que j'ai aucun avenir, quoi.
Une carrière diplomatique ne vous aurait pas déplu?
Non, parce que d'abord pour moi, je voyais, il y avait quelques fils d'ambassadeurs de certains pays et qui étaient pour le coup des types bourrés d'argent et d'un argent qui provenait sûrement de beaucoup de corruption. Et donc, c'était pas l'image que je voyais pour moi. J'étais même, je dois dire, un peu insulté quand on me disait que tu vas être ambassadeur. C'était un peu le cliché. Tu vas être, en gros, tu vas être ambassadeur de fils de magouilleur d'un état bananier quelconque.
Oui.
Ça qu'il y avait derrière l'idée. Donc, c'était pas un compliment pour moi. Donc, quelque part, ma stratégie, peut-être inconsciente, c'était de dire comment faire reculer ce moment de décision le plus possible. Donc, c'était comment rester le plus... Par exemple, j'ai fait un bac C, parce qu'à l'époque, c'était le bac qui me permettait de faire ce que je voulais après. Il y avait aucune raison, j'aurais pu tout aussi bien faire un bac littéraire, mais le bac C à l'époque, c'était quelque chose de très récent, c'était le nec plus ultra, voilà, donc j'ai fait un bac C parce que ça me permettait d'aller là où je voulais. Et pareil, quand après mon bac, il faut prendre la décision de voilà, qu'est-ce que je vais étudier et où. Mon père penche plutôt vers des études d'ingénieur. Moi, je
comme lui,
bien sûr. Et non, parce que voilà, il faut faire quelque chose de solide, oui. avoir un métier, gagner sa vie. Mmh. Voilà,
c'est plus sûr que de faire des études qui mènent à un métier purement intellectuel sans sécurité.
Ah oui, non, mais il n'y en était même pas question. Il n'y a même pas eu de conversation là-dessus. Mmh. J'en ai même pas parlé. Par contre, je me disais, il faut quand même que je fasse quelque chose qui me laisse le plus d'options possibles. Et donc, l'économie. Pour ne pas aller directement vers, je dirais, le politique, mais puisque je m'intéressais beaucoup à la philosophie, j'étais assez bon en philo, mais c'était voilà quelque chose qui me permettait d'inclure de la réflexion. Donc à ce moment-là, mon père propose l'Allemagne, puisque chez les Haïtiens, la bourgeoisie haïtienne, l'Allemagne est l'endroit, voilà. Où c'est solide ce qu'on apprend, c'est beaucoup plus rationnel, c'est beaucoup plus... La France, c'est bien sûr la France de la
littérature.
C'est des rêveurs. Voilà. Donc c'est vrai que le modèle allemand était beaucoup plus clair, l'ingénierie allemande, etc.
L'efficacité.
L'efficacité. Donc moi, je disais, pourquoi pas, mais voilà, il faut que j'arrive à le coupler avec quelque chose. Et à l'époque, il y avait cette nouvelle étude d'ingénieur économiste qui venait d'être mis en place en Allemagne et qui était enseignée dans très peu d'universités. Donc c'était des études doubles où on choisissait une partie d'ingénierie qui pouvait être l'architecture, l'ingénieur fabrication de machines ou etc. et l'électronique et une partie économique où on avait une formation d'économiste. Et c'était des études très longues, de 7 ans. Et c'est ce que je choisis à faire, parce que c'est aussi à Berlin. Donc Berlin est l'une des rares villes où on peut s'inscrire pour ce diplôme.
Donc vous arrivez au début des années 80
Ah non, fin des années j'ai eu mon bac en 73.
D'accord.
Donc voilà, après l'été 73, je vais en Allemagne. Alors ça pas tout de suite à Berlin, puisque je passe 6 mois... dans le sud de l'Allemagne pour apprendre l'allemand, puisque je ne parle pas un mot d'allemand. Plus on apprend de langue, plus on apprend vite. Donc j'ai été à l'Institut Goethe dans le sud de l'Allemagne, dans une province très réactionnaire d'ailleurs, à Passau, qui est la ville du politicien Strauss, qui est un type, c'est l'équivalent de pratiquement de Le Pen à l'époque en Allemagne, Franz Josef Strauss. Mais bon, voilà, c'est là que se situait cet institut. Donc j'ai passé 6 mois là-bas et ensuite j'ai été à Berlin tout de suite et j'ai commencé quelques mois après. Je ne parlais pas encore correctement, mais suffisamment pour suivre, puisque l'enseignement est à la carte en Allemagne. Donc vous devez avoir un certain nombre de crédits jusqu'à une date X, mais c'est à vous de constituer votre programme. Il y a des matières obligatoires, des matières facultatives. Donc, ce que j'ai fait, c'est de choisir les matières comme statistique, comptabilité, mathématiques, qui me permettaient de comprendre, d'écrire, mais sans avoir à maîtriser totalement la langue. Et puis, petit à petit, voilà. Il y a donc ces études que je commence et que je termine. Je sais plus en quelle date, mais que j'exécute très rapidement, et au bout de quelques années, je sais que voilà que je veux faire autre chose, mais que je vais aller au bout de mon diplôme. Je vais même à l'après mon diplôme, je commence un doctorat, une thèse de doctorat, mais déjà sur les politiques de développement. Donc je me spécialise plutôt vers ça que aller vers une sortie, je dirais, plus industrielle, c'est-à-dire pour travailler dans les grandes sociétés, dans les services d'investissement. Parce que ce qu'on apprend vous permet d'être aussi bien, d'avoir un jugement technique, industriel des choses et en même temps économique. Donc on finit en général dans des grandes compagnies pour ce genre de choses. Et ça, je me voyais pas du tout rentrer dans ce moule-là. Donc je préparais déjà, même en allant au bout de mon diplôme, je préparais déjà d'autres portes de sortie. Et voilà.
Et ce fut l'école de cinéma de Berlin.
Oui, je passe le concours pour rentrer à cette école qui est l'une des deux écoles principales d'Allemagne. Donc il y a l'école de Munich et l'école de Berlin. Et l'école de Berlin est une école beaucoup plus politisée aussi. J'avais un certain nombre d'amis déjà qui soit sortaient de cette école. J'avais aidé plus ou moins sur certains films, certains tournages. Là aussi, c'est une entrée politique puisque c'est à l'intérieur de groupes politiques que je participe à ces tournages.
Lesquels, Raoul Peck?
Par exemple, le groupe. Alors, il faut vous dire que Berlin, pendant toute cette époque, c'est un lieu, c'est une ville refuge pour pratiquement tous les exilés du monde, de tous les régimes. Donc, il y a tous les Latino-Américains, il y a tous les mouvements de libération africains qui sont là-bas, l'ANC, le SWAPO, tout l'Angola, etc. Ils ont leur centre politique à Berlin, parce que ça permet aussi des relations faciles avec Berlin-Est.
Oui.
Quand on est étranger, on peut traverser facilement et revenir le même jour sans avoir besoin de visa. Et donc, c'était vraiment un lieu névralgique, politique. Beaucoup des gens avec qui j'ai étudié, c'était des gens de ces provenances. Donc on était assez solidaires, on était, c'est-à-dire on menait nos études, mais le combat politique était prenait tout autant de place, les réunions, et en solidarité avec les Allemands également. Donc on était aussi de toute leur bataille contre l'État répressif allemand de l'époque. Donc c'est la pré-époque des brigades, pas des brigades
de
rouges, de la bande à Badère. Et tout ce qui a suivi après, toute la répression également à l'intérieur de l'université. C'est l'époque du stationnement des missiles de Reagan. Donc les plus grandes manifestations anti-reaganiennes étaient à Berlin. Donc tout ça, tout ce monde-là participait dans les réunions préparatoires, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse au cinéma.
Je vous remercie, Raoul Peck. À demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Raoul Peck. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Andreas Jaffré, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.